Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. C'est 57 minutes interactives avec vous ici au pays et à l'étranger. Quatre syndicats regroupés au sein de la synergie des syndicats des enseignants du primaire de la RDC ont décidé jeudi 5 octobre dernier de porter plainte contre le gouvernement Tshibala pour violation grave des droits humains. Ces syndicats dénoncent le non-respect des obligations et charges constitutionnelles par le chef du gouvernement qui renforce l'insécurité socio-professionnelle chronique dans laquelle sont placés les enseignants du secteur public. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Nico Kalambay, Piro et Lamégie et Jean-Claude Siala à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebojangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Lwabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, je disais merci à tous les internautes, en tout cas du moins les auditeurs qui nous ont accordé leur temps pour écrire sur notre page Facebook. Aloïs estime que les syndicalistes ont totalement raison et sont pleinement en leur droit d'agir contre les actes pleins de contradictions de la part de notre gouvernement de manière à revendiquer les droits qui sont les leurs. Mais aller dans la voie de la justice n'est pas du tout une bonne chose car on serait en face d'un procès dans les le gouvernement sera juge et parti vu l'inféodation de notre justice au gouvernement en place et pour cela il faudrait à la place mener d'autres actions capables de fléchir l'option gouvernementale à ce sujet. Trésor Likonza, lui, pense que le réajustement budgétaire en faveur des enseignants ne produirait aucun effet positif au motif que dans la technique d'élaboration du budget, les parlementaires n'ont pas le pouvoir de créer ou augmenter les dépenses. Kikukumbi dit que l'action intentée en justice par ces syndicats contre le gouvernement est légal, car à ce jour, toutes les voies des négociations semblent être déjà épuisées et il est en tout cas clair que le gouvernement a pris l'option de rouler ces syndicats dans la farine. Élie Joseph dit ceci, ces syndicats ont pris la décision de porter plainte au gouvernement, en raison de quoi? Aussi longtemps que la grève qui devait faire peur au gouvernement a été suspendue sans qu'on aboutisse au résultat escompté. Gaston Canangelo pense que la synergie de ces syndicats devrait chercher les autres moyens de faire pression au gouvernement afin que leurs droits soient respectés. Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir dans ces studios Jean Bosco Pouna, qui est le secrétaire général de Sinecat. Bonjour Jean Bosco.
Bonjour JR.
D'entrée de jeu, quel était le contenu de cette plainte déposée auprès du procureur?
Bien, merci pour la question que vous me posez et je dis bonjour à vos nombreux auditeurs, les nombreux auditeurs de la Radio Okapi. En fait, la plainte qui a été déposée en date du 5 octobre 2017 auprès du procureur général de la République comprend les éléments suivants. Le premier élément, c'est que nous nous sommes appesantis sur le passif du gouvernement en matière de l'éducation. Vous allez bien vous rendre compte que l'actuel Premier ministre et son gouvernement doivent assumer, donc je vais parler du gouvernement dans son ensemble, doit assumer et le passif et l'actif. Mmh. Lorsque nous parlons du passif, vous allez vous rendre compte que différents textes ont été pris par le gouvernement, mais ces textes n'avaient jamais été été respectée. Je veux ici rappeler la mémoire de toute la nation. Eh bien, vous allez vous souvenir, en 2004, le gouvernement prend la décision de pouvoir signer le barème de Mboudi. Le barème de Mboudi, c'est ce qu'on a appelé le contrat de l'innovation. En fait, ce barème devrait sauver le système éducatif congolais, mais devrait sauver l'ensemble d'agents et fonctionnaires de l'État. Ce barème n'a jamais été respecté et pourtant il avait été signé de bonne foi par le gouvernement de la République. Alors, un autre élément de la plainte, ce sont les OMD, les objectifs du millénaire
pour
le développement. Autrefois, parce qu'aujourd'hui, on ODD. Parle des ODD. OK. Mais alors, là aussi, c'est un engagement international. Le gouvernement de la République, lorsque vous prenez tous les différents premiers ministres qui se sont succédés, eh bien, aucun n'a été en mesure de pouvoir appliquer l'OMD relatif à l'éducation qui consacrait 25% du budget national à l'éducation nationale. Alors, il y a finalement les PIE, le plan intérimaire de l'éducation qui est venu, malheureusement, qui n'a apporté aucune solution parce que là, dans les PIE, ce qu'il faut retirer, c'est beaucoup plus la gratuité de l'enseignement, mais aussi résorber les NP, les enseignants qui travaillent comme des véritables bénévoles. Voilà, des bénévoles pendant autant d'années. Alors, dans l'actif, nous avons retenu à charge du gouvernement mise en cause par les enseignants de la République démocratique du Congo, eh bien, la violation flagrante de la loi des finances. On n'a jamais vu au monde une loi des finances promulguée par les chefs de l'État avec un taux budgétaire bien précis. Eh bien, le gouvernement ne veut même plus entendre parler de cela. C'est de l'irresponsabilité et je crois que cette plainte a été reçu par le procureur général de la République en connaissance de cause. Mais il faut également dire, dans l'actif, il y a la question relative à la gratuité. La gratuité, c'est une disposition de l'article 43 de la Constitution, jamais respectée. Alors, nous terminons toujours dans cette plainte. Nous revenons sur la commercialisation des services de l'éducation. Une commercialisation éhontée. Les écoles sont devenues de véritables boutiques, mais à l'indifférence totale du gouvernement.
Avec la prise en charge des enseignants par le parent.
Mais bien sûr, avec la prise en charge. La fameuse prime, 24 ans déjà. Mais il faut ajouter à cela les fournitures qui se vendent au niveau de toutes les écoles, les journaux de classe. Là, j'ai pas de fournitures. Les uniformes. Et donc, au marché, les mamans ne peuvent plus rien vendre. Eh bien, les uniformes doivent se vendre à l'école. À quel prix? À des prix exorbitants.
Et ajouter à cela le frais administratif imposé par les provinces actuellement.
Qui, oui, mais qui tout à fait.
Le casse-tête pour les promoteurs d'école et aussi
voilà,
les écoles publiques.
Voilà. Des frais qui doivent aller au niveau des bureaux gestionnaires. Et même les parents doivent financer l'État. Donc, autant de problèmes. Nous avons remarqué que le gouvernement était indifférent à toutes ces questions. Voilà pourquoi la plainte a été portée à l'instance du procureur général de la justice, de la République, pardon, et nous sommes fondés de croire en tant qu'enseignants que celui-ci va devoir dire les droits.
Est-ce qu'on peut dire que recourir à la justice, c'est parce que vous avez épuisé toutes les voies des négociations et qui n'ont accouché que des souris?
Ben voilà, nous avons décrété une grève au niveau des assemblées générales, que ce soit à Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La grève a fait plus d'un mois. Eh bien, le gouvernement a fait des promesses. La dernière promesse qu'il a faite, c'est le 2 septembre. Il s'est réveillé en catastrophe. Eh bien, il a promis de donner 30 000 francs. Et là aussi, vraiment, c'est de la mauvaise foi. Les 30 000 francs n'arrivent pas. En tant que secrétaire général du Sinecat et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la République, eh bien, nous sommes martyrisés, nous sommes dérangés même par les enseignants qui continuent à se demander quand est-ce que le gouvernement va payer même la petite collation qu'il a promise pourtant lui-même. Voilà autant de problèmes qui font que les enseignants, cette fois, ayant épuisé toutes les voies de recours nous reconnues, eh bien, nous nous sommes dit, en dehors des recours administratifs, eh bien, nous pouvons recourir au niveau des instances judiciaires parce que, eh bien, comme vous le savez, les cours et tribunaux, c'est un pouvoir dans notre pays et nous pensons que le procureur général de la République va devoir dire les droits.
Dans l'hypothèse que votre plainte sera déclarée irrécevable ou encore dans les fonds, irrécevable. Qu'allez-vous faire? Quelle sera la suite?
Bon, il faut dire que les enseignants ont mis toutes les précautions pour que cette plainte puisse être recevable. Déjà, il faut vous dire que nous avons déposé cette plainte le 5 octobre. C'est la journée mondiale des enseignants à travers le monde. Et donc, c'est une véritable symbolique pour nous. Mais aussi, nous avons approché tous les différents cabinets d'autorité dans cette ville. Eh bien, nous avons travaillé avec des avocats rompus. Je crois que le gouvernement ne s'en sortira pas. Sinon, il doit être rappelé à l'ordre par la justice afin de pouvoir mettre les enseignants dans leurs droits. Sécuriser l'éducation, sécuriser les élèves. Pourquoi pas sécuriser les parents qui sont presque exploités à outrance et ça fait beaucoup d'années.
Est-ce qu'on peut penser à une possibilité encore d'une grève au cas où la réponse elle n'est pas satisfaisante pour vous?
Bon, déjà, il faut dire que dans les réponses que nous attendions du gouvernement, jusqu'à ce jour, JR, le gouvernement accuse une indifférence sans nom. Bon, il a fait une promesse, on attend la promesse, ça ne vient pas. Nous avons observé une trêve. La trêve qui a été observée, c'est pour donner encore une chance au gouvernement et ne pas hypothéquer toute l'année.
Un préavis.
Mais tout à fait. Nous étions en grève plus d'un mois. Le gouvernement fait des promesses. Il laisse voir qu'il n'a pas de moyens. Et pourtant, nous tous, nous savons que nous sommes un potentiel terrible dans ce pays. Et donc, aucun enseignant ne peut plus croire à un gouvernement qui fait des promesses 10 ans, 20 ans. Eh bien, on se dit, on observe une trêve parce qu'il y a des écoles qui sont encore rentrées vers les parents pour ne pas préjudicier les enfants. Parce que si vous atteignez 45 jours, eh bien, l'UNESCO déclare l'année blanche. Et voilà pourquoi les enseignants se sont avisés pour dire, nous allons observer une trêve, en même temps, nous faisons pression au niveau de la justice. Si rien n'est fait, je crois que pendant la période des examens, eh bien, tout sera perturbé et c'est le gouvernement qui en sera le premier responsable.
09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 6330 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, alors on reçoit Franck de Vienne qui nous a rejoint à ce niveau du débat. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui vont intervenir.
Quelle est votre contribution?
Oui, je dois commencer par m'exclamer, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment pénible pour notre pays. Monsieur le journaliste, certains sociologues et criminologues l'ont déjà démontré à travers leurs exposés et recherches que pour bien détruire l'avenir d'une nation où ses élans et ambitions liées à son développement durable et intégral, il faut commencer par détruire, anéantir et anesthésier le domaine de l'éducation nationale en ciblant surtout le secteur de l'enseignement dans son intégralité. Et rien qu'à voir comment notre pays est gouverné, rien qu'à voir la politique sociale, salariale que nous avons mise en place depuis des décennies, rien qu'à analyser la considération et les égards, la place et la position de l'enseignement et tout comme de l'enseignant dans notre pays, nous devons nous donner du courage pour reconnaître que ce plan machiavélique est en train de se faire asseoir, car le domaine de l'enseignement chez nous est déjà détruit. Il faut qu'on se le dise, le domaine de l'enseignement est déjà détruit. Point n'est besoin d'énumérer encore la liste des mots et vices, la liste des...
Franck, est-ce qu'on peut aller tout droit au but? Aujourd'hui, la démarche menée par les quatre syndicats des enseignants est-il opportune? Cette démarche-là? Est-ce que vous estimez comme les autres que oui, allez-y parce que vous risquez de prendre beaucoup de temps et puis
ils peuvent se liguer, se coaliser, c'est une bonne chose, mais qui prendra en compte leurs revendications? Quelle justice pourra statuer pour les réhabiliter dans leurs droits? Je crois que les syndicats des enseignants doivent se mettre ensemble avec les peuples pour qu'on se réveille et qu'on dise non à cette manière de détruire notre nation, parce que c'est toute une complicité qui est mise en place au niveau national pour détruire l'avenir d'une nation. Je ne pense pas que seulement les enseignants seuls arriveront à faire tourner cette machine-là sans impliquer les peuples et les élèves. Qu'ils demandent aux élèves de marcher comme ça, nos dirigeants pourront se rendre compte de la gravité des décisions qu'ils prennent contre l'avenir de l'enseignement. C'est tout ce que je peux suggérer. Vraiment, ça me fait mal, mais je suis arrivé de le dire comme ça sur les ondes.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Vous êtes très triste. Et là, vous avez, au fait, évoqué la façon dont l'État décrit son avenir. Et vous avez estimé qu'aujourd'hui, sur toutes les lignes, il y a des points qui prouvent à suffisance qu'effectivement, il n'y a pas une volonté politique. Merci beaucoup. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gérard Lungembo. Bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre contribution?
Oui, Gérard, je pense que la coalition de quatre syndicats fait une revendication qui est bonne, mais à mon humble avis, cette coalition s'est trompée au niveau de la procédure. Parce que personnellement, en tant qu'avocat, je suis en train de me poser mille et une questions, la procédure entamée, elle va aboutir comment et les histoires vont se passer comment, je ne sais pas. Parce que n'oubliez pas que en droit, il y a le principe selon lequel la personne morale ne délingue pas. Lorsque on dépose une plainte contre tout un gouvernement, bon là je suis un peu perdu et je suis perplexe. C'est comme ça que sur le plan procédural, il va se poser des problèmes et je ne serais pas surpris si cette plainte-là est déclarée, à mon humble avis, irrécevable. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une question civile soulevée par la coalition des quatre syndicats. Cette question-là civile devrait être dirigée autrement. Donc, on pouvait chercher à saisir les juges civils pour que la coalition puisse démontrer le préjudice subi à tous les niveaux, parce que je suis...
Oui, mais Adrien, la Constitution, dans certaines dispositions, définissent un peu dans quel cas on peut, au fait, intenter un procès contre la République ou encore les animateurs de certaines institutions. Il y a aussi des instances habilitées à étudier ou encore à recevoir, soit en inconstitutionnalité ou en constitutionnalité, des actes posés par les acteurs ou des animateurs politiques.
Oui, je veux bien, Gérard, je suis tout à fait d'accord, parce que vous allez vous rendre compte que les amis seront bloqués quelque part, parce que si moi j'étais à leur place, on pouvait chercher à cibler, donc peut-être quelqu'un, soit on dépose une plainte contre le Premier ministre en tant que chef du gouvernement, soit contre le ministre de l'Éducation en tant que ministre des tutelles. Parce que lorsqu'on assigne tout un gouvernement, ça va se bloquer.
Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Mais je crois que notre invité va répondre à cette préoccupation. Mais selon les informations que nous avons, la plainte, c'est contre le Premier ministre, Bruno Tshibala.
Oui. Donc, si c'est contre le Premier ministre, je pense qu'en ce moment-là, l'argumentation de la plainte, permettez-moi les termes, je ne donne pas de leçons, me semble un peu complexe. Parce que lorsqu'on dit il y a vente des objets, ainsi de suite, mais est-ce qu'ils ont des preuves pour démontrer que c'est le Premier ministre qui est en train de vendre? Je dis non. Or, le ministre de l'Enseignement, de l'éducation, lorsque nous lisons la Constitution, chaque ministre est responsable de son département ou bien de son ministère. Donc c'est là qu'il y aura une certaine confusion
au niveau du fond
entre le rôle du Premier ministre et le rôle du ministre.
Et la responsabilité engagée. Merci beaucoup. Alors votre préoccupation, nous allons la résumer en ceci. Donc vous posez la question sur la responsabilité des uns et des autres. La responsabilité engagée du Premier ministre et celle engagée par le ministre en charge de l'éducation. Et là, vous avez décrié la procédure. On verra avec notre invité qui pourrait nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Élisée, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à l'invité.
Alors, vous avez la parole, Élisée. Quelle est votre contribution?
Merci pour cette opportunité. Je serai un peu brève en disant que ces syndicalistes, d'un côté, ils peuvent avoir raison. Mais de l'autre côté, à mon avis, je dis non. Du côté positif, ils ont raison parce qu'il s'agit de leurs droits. Ils doivent les revendiquer. Et le gouvernement, là, depuis qu'il a promis d'augmenter les salaires des enseignants jusque-là, rien n'est fait. désolés, en tout cas, nous sommes vraiment désolés. Et du côté négatif, ces syndicalistes n'ont pas du tout raison, comme je disais tantôt, pourquoi. Je serai clair, parce qu'ils devraient d'abord eux-mêmes respecter les consignes. Comme exemple, nous étions tous au courant de leur grève. Mais à un moment donné, les uns commençaient déjà à travailler normalement. C'est comme si de rien n'était. Aussi autant que les autres étaient encore en grève. Mais je me demande, qu'est-ce qui se passe au niveau des enseignants? C'est comme si que les uns sont corrompus. Et s'ils sont corrompus, on n'aboutira à rien, monsieur.
Merci.
Que ce soit leurs revendications, parce que eux-mêmes, les enseignants, sont les premiers au non-respect du mot d'ordre de l'air syndicaliste. Voilà ce que j'avais à contribuer, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Élisée. Est-ce que Ernest partage cet avis? Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour. Ernest, vous êtes avec nous à Matadi.
À tous ceux qui nous suivent à cet instant.
Oui.
Je crois que je ne suis pas d'avis avec la dame qui vient de parler. On ne peut pas, dans une société composée de milliers de pensées, de milliers de philosophies, qu'on soit tous d'accord sur cette action. Il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas la lutte des syndicalistes. Les syndicalistes ne luttent pas pour eux-mêmes. Jean Bosco ne lutte pas pour lui-même. C'est une personne, mais des milliers et des milliers de personnes. Lui a effectué un salaire, mais ces milliers d'enseignants qui travaillent des années sans salaire, ce n'est pas lui qui les nourrit. Il ne sait pas pour l'individu, pas pour les individus. Mais moi, je crois, la plainte se justifie, mais ce que je pense, il faut qu'à cette plainte qu'on ajoute des personnes qui doivent associer, des personnes, des structures à ajouter à la plainte. Par exemple, les syndicats, les quatre syndicats-là doivent travailler en collaboration avec les associations des parents d'élèves. On doit aussi, comme le ministre Maquet est parti, on avait instauré dans les écoles le gouvernement des élèves. Il faut qu'on trouve, ne plus qu'une certaine représentation par réseau, des délégués de ce gouvernement des élèves, parce que les bénéficiaires de ces conflits au niveau des services de la société, ce sont les enfants. Ils sont sacrifiés. Nous sommes tous d'accord, et le ministre, le gouvernement et le gouvernement, nous sommes tous d'accord que le niveau de l'enseignement dans ce pays est très bas. Les élèves ou les étudiants de ce pays ne reflètent plus la qualité attendue. Mais pourquoi on est tout là? Pourquoi on ne veut pas chercher une solution? Donc, qu'on associe les associés des parents, les délégués des gouvernements et des élèves à sélectionner par réseau. Et la plainte doit être ciblée dans le sens que le ministre des Finances, le ministre du Budget, de l'EPSP et le chef du gouvernement qui gère le gouvernement, le pays au quotidien. Rien ne peut échapper au quotidien. C'est lui qui gère le pays au quotidien. Il doit tout savoir. S'ils sont pour l'éducation des enfants, ils doivent s'impliquer à ce qu'on demande, les enseignants. Les enseignants ne demandent pas les yeux de la tête. Les enseignants ne demandent des millions de dollars comme ils gagnent ça. Mais c'est juste le minimum de la vie. Qu'ils soient capables d'éduquer ses enfants, qu'ils soient capables d'envoyer ses enfants à l'école, les nourrir et que les enfants bénéficient tous les moyens de la vie, la joie de vivre. C'est tout ce que les enseignants demandent. Ils ne demandent pas des premiers ministres. Ou le ministre des Finances, ou gouverneur de province, ou encore mieux, président de la République. Voilà un peu ce que je pense.
Merci beaucoup, Ernest. 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
À la découverte de merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons la deuxième heure de cette émission. Merci de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue donc dans cette deuxième partie de Paroles aux auditeurs, cette émission d'échange citoyen. Jean Bosco Pouna, vous êtes le secrétaire général de SINECAT, le syndicat national des écoles conventionnées catholiques. Alors, vous êtes avec nous, vous avez suivi Franck Devienne, Maître Adrien, Élisée ainsi que Ernest de Matadi. Je pars avec la préoccupation, je commence donc ma question avec la préoccupation tout à l'heure, de Maître Adrien qui évoquait un peu la vis de procédure en tant que juriste. est-ce que vous ne risquerez pas de vous retrouver devant cette difficulté?
Oui, merci.
Par rapport à votre démarche.
JR, je crois que il a raison d'avoir des craintes lorsque nous observons de près le comportement de notre justice. Mais laissez-moi vous dire que le travail qui a été fait n'a pas simplement été fait par les enseignants. Et donc, notre synergie a consulté des cabinets et nous nous sommes rendus compte que la démarche pourrait être recevable. Alors, j'ai dit à notre auditeur que dans les programmes d'action du gouvernement, il y a 4 axes. Organiser les élections, c'est le premier axe. Stabiliser et relancer l'économie nationale, deuxième axe. Améliorer les conditions de vie de la population, troisième axe. Et améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce sont les 4 axes qui constituent le programme d'action du gouvernement qui a été présenté au Parlement. Et lorsque nous prenons le volet améliorer les conditions de vie de la population, par population, il faut entendre les enseignants, les élèves, mais aussi les parents. Dans la plainte, il est vrai que nous ne sommes pas revenus...
Et l'ensemble des fonctionnaires de l'État.
Oui, mais bien sûr, l'ensemble des fonctionnaires de l'État. N'oubliez pas que les enseignants sont plus de 600 000 enseignants. Et donc, nous constituons la grande enveloppe au niveau de l'administration publique dans son entier, dans son entièreté. Alors, lorsque vous prenez le troisième axe, améliorer les conditions de vie de la population, mais il faudrait quand même dire aujourd'hui que les parents sont superbement exploités. Celui qui doit répondre directement, nous savons que c'est le ministère des tutelles, le ministre de l'enseignement, mais il est chapeauté par un gouvernement. Et le premier ministre qui a promis aux enseignants l'amélioration des conditions de vie, nous pensons que c'est lui qui est directement mis en cause. Et dans la plainte, nous sommes revenus sur la question relative à la politique de la gratuité de l'enseignement fondamental. Vous savez que c'est depuis 2010 que le chef de l'État à Kananga a confirmé que la gratuité sera démise dans toutes les écoles primaires. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous manqué. Et donc, les différents premiers ministres qui se sont succédés devraient se donner de la peine pour pouvoir appliquer cette mesure qui est du reste constitutionnelle. Mais le deuxième élément, c'est l'engagement de résorber tous les enseignants non payés. Alors, le gouvernement, même lorsqu'il parle de la promesse dans l'accord qui a été signé, eh bien, le gouvernement parle de 5 000 contre 145 000 enseignants. Vous comprenez que c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que lorsque vous prenez 5 000 contre 145 000, voyez-vous ce qui va devoir rester. Et on va continuer à confier les enfants à des personnes qui travaillent, mais sans être payées. Quelle morale ces enseignants peuvent-ils avoir devant les enfants? Et donc, nous croyons que là, c'est pour dire, comme notre ami de Vienne, c'est un véritable complot qui est ourdi contre la République. Eh bien, il y a un troisième élément. C'est l'engagement de calculer les salaires des fonctionnaires sur base du taux moyen de 1425 francs congolais. D'où est venu ce taux-là? Le Premier ministre l'a dit devant la représentation nationale. Je crois que le procureur amènera, et nous tous, nous devons amener ce gouvernement par son Premier ministre à pouvoir démissionner. Parce que lorsque l'on promet, la loi des finances, nous tous, nous savons que c'est une loi promulguée par les chefs de l'État et rien ne s'est fait. Le médecin crie, les fonctionnaires de l'État crient, les enseignants professeurs d'université crient, les enseignants au primaire, au secondaire crient, rien n'est fait. Le Premier ministre ne fait absolument rien. Je crois que c'est un motif de haute trahison. Et pour ma part, pour la synergie, c'est un gouvernement qui doit être...
Alors Jean Bosco, qu'est-ce qui s'est passé entre l'adoption du budget qui prévoyait 1425, si mes calculs sont bons, disons dans l'actualisation de l'enveloppe de fonctionnaires de l'État, alors et au moment où vous êtes allé en grève et des négociations, qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on arrive à proposer aux enseignants le 30 000 francs.
Bon, mais vous savez que le gouvernement négocie toujours sur un fond de ruse. Donc, en réalité, avec ce qui avait été déterminé dans la loi, il n'y avait pas négociation à faire. Ce qui devrait être discuté, je parie, c'est la question relative au NP, aux nouvelles unités et la tension salariale. Parce que lorsque l'on donne 1425, c'est dans la loi des finances, je ne vois pas pourquoi l'on doit encore aller discuter, tenir des négociations sur du point de vue du taux. Le taux ne devrait plus bouger. Quoique aujourd'hui, nous tous savons bien que le taux, ce n'est pas à 1400 aujourd'hui. Nous tous, nous savons que c'est à 1600 aujourd'hui. Mais les enseignants se sont dit, étant donné que c'est codifié dans la loi des finances, nous l'acceptons comme tel. Et donc là, il n'y avait pas de négociation à faire, sinon cette ruse à laquelle le gouvernement a habitué les agents et fonctionnaires de l'État. Les 30 000 francs sont venus simplement parce qu'il y avait cette véritable grève. Et j'ai dit j'encourage la dame qui a parlé, qui est revenue sur les enseignants. Parce qu'en réalité, les enseignants ne veulent pas prendre leur destin en main. Parce que nous sommes allés en grève, c'est vrai, mais il y a des enseignants qui ont repris
sans tous
que
les... Tous n'ont pas partagé cette
tout
idée.
Tout à fait. Je dois dire
au sein des syndicats, vous êtes divisés, vous ne menez pas une bonne coordination pour arriver à impliquer tout le monde.
Oui, mais c'est très difficile, JR, parce que nous sommes devant un système corrompu. Le système corrompu de la prise en charge des enseignants par les parents. En fait, c'est un système intéressé, corrompu et discriminatoire. C'est-à-dire que les enseignants qui se retrouvent dans les écoles, par exemple de la Gombe, je ne parle même pas des privés, parce que les privés sont privés, mais je parle des écoles publiques. Les enseignants qui ont la chance de se retrouver dans une école qui peut donner $300 à l'enseignant, eh bien, ils boudent simplement la grève, oubliant que s'ils sont mités dans une autre école, eh bien, ils vont perdre tous les avantages qu'ils ont dans cette école-là. Donc, c'est le système de prise en charge qui fait que les enseignants, par moment, sont poussés, contraints par les gestionnaires à pouvoir travailler, et ils travaillent. Et là, nous devrons le regretter. Mais la négociation qui a abouti à 30 000 francs, je crois que c'était une supercherie du gouvernement. Malheureusement, aujourd'hui, les événements nous donnent raison parce que nous avons refusé de pouvoir signer cet accord.
Ça semble-t-il que ni vous, ni les CIECO avez pris part à cette réunion.
Si, nous y avons été conviés, mais malheureusement, nous avons pensé que ça ne donnerait pas de résultats. Les CIECO avaient bel et bien pris part de bonne foi. Malheureusement, ils ont, une fois de plus, été floués parce que ils ont participé, et d'autres syndicats. Malheureusement, le gouvernement fait des promesses, il ne donne absolument rien. Jusqu'à ce jour, JR, laissez-moi vous dire, qu'il y a des enseignants pour le mois de septembre qui ne sont pas encore payés. Et même pour cette augmentation fallacieuse des 30 000, eh bien, ce n'est pas arrivé.
Toujours pas arrivé.
C'est toujours sur listing que les enseignants admirent cette augmentation.
Voilà.
C'est bien dommage.
On fera une émission dans les jours à venir sur le redonnancement à la chaîne des dépenses, parce que, bon, selon nos informations, je crois que c'est à vérifier aussi. Même les frais de fonctionnement des différents ministères, c'est à peine qu'on vient de délibérer depuis 3 mois. Voilà. Ingénieur Mangoyo, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, JR, pour m'avoir accordé la parole. Je salue d'abord le camarade Jean Bosco Pouna, que je connais personnellement. Je le salue syndicalement. Je dois dire que, M. Gère, que cette situation des enseignants, moi personnellement, me tient toujours à cœur. Pourquoi? Parce que moi j'ai un aîné, notre frère aîné, qui est enseignant, ça fait presque 50 ans, mais qui ne profite rien de sa carrière. Pourtant, il a formé des gens. Ça, c'est première
inquiétude.
Il y a le camarade Jean Bosco Pouna, que je félicite. Je le félicite parce que je le connais personnellement pour l'avoir fréquenté. Et souvent je me plains. Je dis, Jean Bosco lutte pour rien. Parce que, monsieur Gère, vous savez que cette situation des enseignants, les enseignants eux-mêmes sont parfois responsables de ce qui leur arrive. En dépit du fait que les syndicats comme Sinecat luttent toujours pour faire comprendre aux enseignants, prenez votre destin en main, mais écoutez, c'est pas possible. Jean Bosco a risqué sa vie, Jean de Flat. Je le flatte pas, je le dis par expérience. Moi, j'ai été...
Voilà,
quelqu'un a parlé de la PEC, de l'association des parents, ou un APECO, comme vous voulez. Mais je dois vous dire, Gilles, que si aujourd'hui l'État a croisé le bras, se frotte les mains. C'est parce que justement, cette pratique de prise en charge des enseignants par les parents, comme l'a dit le camarade Jean Bosco Pouna, a corrompu tout le monde. Vous comprenez? Et je vous dis que lorsque vous regardez JR, dans la structure, moi j'étais président dans une école, président du comité scolaire, dans une école, ici, en Galima. J'ai dû quitter la PEC par conscience. Je me suis dit, je ne peux pas continuer parce que je constate que ce n'est pas correct. Toutes les institutions, j'ai dit toutes les institutions, l'Église catholique, la PEC, certaines structures de l'enseignement, EPSP, se retrouvent dans la structure des frais scolaires à payer par les parents. C'est extrêmement grave. Donc, lorsque vous voulez attaquer cette pratique-là, c'est tout le monde qui se dresse derrière vous ou devant vous. Et les chefs d'établissement l'a dit, Jean Bosco Pouna l'a dit, l'école est devenue une véritable boutique, une véritable machine à fabriquer l'argent. Je vous donne une idée, JL. Vous savez que à l'école secondaire, moi, mon fils étudie dans une école que je ne veux pas citer ici, mais une école conventionnelle catholique. La compte est seulement, vous êtes déjà dans les 313 500 Congolais. Mmh. À compte, 4e diplômé pédagogique JR. Et moi, on me paye combien? Alors, lorsque vous allez solder...
Alors, pour quel commentaire?
Je vous donne une idée.
Oui, ingénieur Bahemagoyo, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres auditeurs qui attendent après vous. Alors, est-ce que comment avez-vous apprécié réellement cette démarche de syndicalistes qui sont allés voir le procureur? Au fait, c'est ça le cœur du débat.
Non, mais écoutez, monsieur, je suis congolais, je vis ici en RDC. Je suis pessimiste parce que nous connaissons comment fonctionne notre système judiciaire, notre justice. Nous, moi, je suis pessimiste. Et surtout lorsque je vous dis que c'est un conglomérat de profiteurs. Alors,
merci
la solution
beaucoup.
Ici, et une fois de plus, je n'ai cessé de le dire avec mon camarade Jean Bosco Pouna, c'est les enseignants eux-mêmes. Ils doivent prendre leur destin, mais refuser d'abord, l'argent des parents. Advienne que pourra, le jour où ils vont tous prendre conscience que cette pratique, cet argent que le parent nous paye difficilement et qui ne fait, pour lequel nous ne profitons rien, nous devons refuser.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo.
Merci beaucoup,
alors. Ingénieur Mangoyo, merci beaucoup.
On va prendre ses responsabilités, même s'il faut aller dans une année blanche. Mais c'est ça le prix à payer.
Merci beaucoup, c'est le prix à payer. Maître Sonville, je crois que nous n'allons pas arriver là. Maître Sonville, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi. Bonjour aussi à notre invité, Jean Bosco Pouna.
Alors, vos prédécesseurs...
Quant à la thématique développée... Oui, alors ?
Allez-y.
Oui, quant à la thématique développée aujourd'hui, moi, j'estime que je loue d'abord le courage et la détermination du collectif des syndicats, des enseignants. Pourquoi je le dis ? C'est-à-dire qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours administratif. Et ils sont tout à fait légitimes. Leur droit est tout à fait légitime. Il est reconnu à tout Congolais de se plaindre devant la justice lorsqu'il est lésé. C'est ainsi que ce collectif a été le premier ministre en tant que représentant du gouvernement en justice auprès de son juge naturel qui n'est autre que le procureur général de la République. Et j'estime que leur plainte est très démotivée puisqu'il y a de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Si je peux être ne plus qu'un cas, le cas de 25 000 francs ou 30 000 francs qui devait être majoré au salaire des enseignants. Ces 30 000 francs ne se retrouvent que sur les litiges. Mais les enseignants ne sont pas encore entrés en possession de ces 30 000 francs. C'est un cas d'abus de confiance. C'est un cas d'escroquerie. Et c'est pénal. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vice de procédure, comme l'a dit l'un de vos intervenants. Moi, j'estime que la démarche, elle est la bonne. Et là, il y a quelque part là, Jean Bosco Pouna a relevé même la violation flagrante de la loi des finances qui a été promulguée par l'État congolais. Or, dans des rapports qu'ils ont avec les organismes internationaux, il a été bien dit que 25% du budget national doit être affecté à l'enseignement. Rien n'est fait. Et comment est-ce que ce chien-là pouvait recouvrer leurs droits? C'est en s'adressant aux instances judiciaires. Et c'est ce qui a été fait. Moi, j'estime que les syndicalistes ne doivent pas être pessimistes, parce que nous venons de vivre un cas à Lubumbashi. Là où une plainte contre le maire de la ville a été déposée auprès du parquet général, et la plainte est actée. Jamais on n'avait vécu un cas pareil. Et j'estime que les syndicats prennent les Congolais à témoin quant à leur plainte. Puisque aujourd'hui, si les enseignants décident de manifester sur les rues, la manifestation sera étouffée. Nous vivons la restriction des libertés fondamentales. Et voilà qu'ils ont bien raisonné en traînant le Premier ministre. Si le Premier ministre n'est pas intéressé, c'est celui-là qui va orienter maintenant la justice. pour peut-être que cette plainte soit orientée vers le ministre Zitibel, mais néanmoins le Premier ministre a une très grande part de responsabilité, parce que c'est lui qui chapeaute tous les ministères. Vous comprenez un peu. Et moi j'estime que dans ce sens-là, les enseignants ont pleinement raison. Quant à la commercialisation, quant à la gratuité de l'enseignement, ça c'est une autre trahison. Lorsque une disposition est reconnue dans une constitution, même promulguée, il faudrait que le Premier ministre puisse veiller à l'applicabilité de cette disposition. Mais lorsque le Premier ministre ne dit rien, il est aussi complice. On doit les poursuivre pour complicité. Et moi, j'estime que la plainte a été bien élaborée. Et j'estime qu'avant même que les enseignants puissent déposer leur plainte au niveau du procureur général de la République, ils sont consultés quand même des cabinets juridiques qui un peu compétents. Et moi, j'estime que les collectifs de syndicats. Oui, alors.
Voilà, merci beaucoup, Maître Sauville. Nous comprenons que pour vous, la démarche, elle est vraiment normale. Vous êtes très, très, très trop optimiste en disant que ça peut donner des résultats. Mais vous avez évoqué, comme vos prédécesseurs, qu'il s'agit là de l'escroquerie. Ingénieur Bâtier, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Campus. Je salue nos compatriotes qui nous suivent. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, je voulais dire que les syndicats, ils ont pleinement raison. Malheureusement, que leurs revendications n'aura aucun effet par rapport à leurs réclamations, parce que nous savons que le gouvernement qui est là, il souffle de la surdité aux préoccupations de la population. Si on avait un gouvernement qui écoute la préoccupation de la population, je pense que il pouvait avoir des effets positifs. Malheureusement, notre gouvernement souffre de la surdité aux préoccupations de la population. Déjà, vous savez, personne n'ignore que le gouvernement actuel, le Premier ministre, nous avait promis qu'il va rabattre les taux du dollar à 90. On continue à attendre. On attend impatiemment que les dollars rentrent à 90 pour que nous puissions vraiment croire que vraiment il est là pour la population. Déjà, avec les problèmes qui se posent maintenant, je ne crois pas que les syndicats auront une
suite. Regardez cause.
Moi, je voulais juste les demander qu'ils patientent. Le jour où on va avoir un gouvernement qui aura vraiment écouté la préoccupation de la population, un gouvernement qui va travailler pour l'intérêt de la population, je pense que là, on peut poser un problème.
On peut passer à un résultat.
On ne peut pas poser un problème à une personne.
Merci beaucoup, ingénieur Bâtier. Alors, on revient à vous rapidement. Jean Bosco Pouna, secrétaire général de Cinécat. Vous avez suivi les uns et les autres. Vous savez, vous avez votre commentaire. Mais je reviens sur ce que Ernest disait tout à l'heure. Pourquoi n'avoir pas eu le temps d'élargir votre action, d'étendre votre action jusqu'au niveau de l'APEC ou de l'APECO? Parce que ce sont les deux structures qui gèrent aussi les parents. En évoquant, bien entendu, des questions relatives à la prise en charge par les parents, des enseignants par les parents. Donc, la question intéresse aussi cette catégorie de social.
Oui, merci beaucoup et merci à l'auditeur qui a posé cette question. Mais il faut déjà dire que les associations des parents dans notre pays, toutes ne sont pas crédibles. Et donc, aux yeux des syndicats, aux yeux même des parents, ces associations accompagnent l'État dans sa démission.
Il n'y a là que deux. APEC, oui. Association des parents des élèves des écoles catholiques, oui. Et l'ANAPECO, Association nationale de parents élèves du Congo. Donc, c'est officiel et puis privé pour le compte de confessionné.
Bien sûr, il y a l'ANAPECO qui est l'association depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque
d'IFR.
Tout à fait,
oui.
Mais il y a
avec l'APEC, M. Onokoko qui avait fait pendant longtemps.
Oui, pendant longtemps. Mais il y a l'APEC et toutes les écoles conventionnées ont aujourd'hui leurs associations des parents. Donc il y a l'APEP, Association des parents et élèves protestants. Il y a l'APC. Donc toutes les conventions ont aujourd'hui. Alors il faut comprendre déjà que non, c'est parce que chaque association des parents a une quote-part dans ce que les enfants payent. Et c'est une quote-part énorme. Lorsque vous multipliez par nombre d'enfants, là où ils se trouvent, eh bien, c'est beaucoup d'argent. Je mets à défi toutes les associations des parents. Ils ne sont pas crédibles. Elles ne sont pas crédibles vis-à-vis des parents. Mais je reviens sur la question de l'opportunité de notre démarche. Il faut déjà dire que pour nous, nous savons que d'ici là, les paysages politiques vont être tournés. Nous tous, nous savons que dans 3 mois, nous devrons aller aux élections. Et donc, l'action que nous mettons en place est une action qui porte sur la durée.
Donc, on attendra l'évaluation de CENSA, CENI et le gouvernement
oui, bien
pour
sûr.
Déterminer si on ira à
tout ce qui va arriver, mais nous savons que nous aurons des élections et il y aura un nouveau pouvoir politique. Il y aura un nouveau gouvernement. Pour nous, le conflit est ouvert. Et donc, le gouvernement qui viendra prochainement trouvera les conflits des enseignants et il va devoir se saisir de cette question pour donner des réponses. Mais nous n'excluons pas l'actuel procureur qui nous a envoyé 2 avocats généraux, qui nous a écoutés, nous avons dû échanger. Il revient au procureur général de la République de pouvoir donner les réponses attendues à tous les enseignants de la République. Mais je crois que cette fois, c'est une opportunité que l'enseignant qui a formé tout le monde, en commençant par les procureurs jusqu'aux députés et tout le monde, je vais dire, eh bien cette fois, on va devoir s'apitoyer sur le sort de notre jeunesse. Parce qu'en fait, vous savez que l'éducation, c'est le levier du développement. Mais lorsqu'on ourdit un complot contre l'éducation, eh bien, on va détruire toute la nation. Et je crois que le PGR, le procureur général de la République, qui a respecté les enseignants, qui a accepté de pouvoir recevoir cette plainte, le numéro de la plainte c'est 13 965, c'est au niveau du parquet général. Je crois que le premier ministre qui est mis en cause va devoir être interpellé et des solutions doivent être trouvées pour le compte des enseignants de la République.
Alors on se retourne de l'autre côté du standard pour voir quelques auditeurs, en tout cas les tout derniers, la dernière série, les auditeurs qui nous ont rejoints. Félicien est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à l'invité et bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ah oui, l'invité vient de clarifier en dernière minute ma préoccupation, parce que pour moi je comprenais pas cette plainte-là, ça pouvait porter quoi, mais quand il vient de dire que c'est dans la durée, je comprends que c'est à titre symbolique, lui il le savait même, c'est une formalité. Parce qu'on ne peut pas demander à un gouvernement, et tout le monde a dénoncé sa constitution, comment elle a été formée. Mais ce gouvernement-là, et plutôt comment il a été formé, le gouvernement, n'a pas été formé pour résoudre les problèmes de ce genre. Et le gouvernement-là est entré par des voies que tout le Congrès connaît. C'est pas pour résoudre ces problèmes, c'est pour aider ceux qui veulent aller au-delà de la date prévue pour les élections. Et il est en train de faire son travail. Parce que c'est pour l'avenir, c'est très bon. Il faut quand même commencer à mener des actions. Mais moi, je crois que le problème des syndicats, c'est d'abord de conscientiser les enseignants. Et les enseignants-là qui se comportent comme dans une jungle, croyant que les parents qui sont dans ce pays aussi, et où on n'a pas de travail, on n'a pas de salaire à temps, on n'a pas, les fonctionnaires ne sont pas rémunérés normalement. Ce sont ces parents-là qui doivent payer les enseignants. C'est comme dans une jungle, donc le plus uniforme mange le plus faible. Mais au contraire, ils devraient se battre pour que dans un pays qui est béni de Dieu, et la répartition du revenu national soit équitable pour tout le monde. C'est ça le combat. C'est-à-dire que quand l'invité, quand il parle, tout le monde crie, les médecins crient, les infirmiers crient et tout. Donc c'est-à-dire que toute la nation, toutes les catégories professionnelles doivent se mettre ensemble pour combattre le système. Non pas de se rabattre sur un premier ministre, dont tout le monde sait qu'il n'est pas là pour résoudre les problèmes de ce genre. Mais combattons et changeons le système pour une vie normale et durable.
Merci beaucoup. Alors, essayez de rappeler d'ailleurs les missions assignées à ces gouvernements. Organiser les élections, stabiliser l'économie, améliorer les conditions sociales et sécuriser la population. Et dans le cas d'espèce, nous parlons, en tout cas dans les volets, conditions, l'amélioration des conditions sociales. C'est là où, au fait, les syndicalistes ont pu motiver leur plainte. Merci beaucoup, Félicien. Alain, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Makoba Alain à Kananga.
Quelle est votre contribution?
Je pense que les enseignants sont dans les droits, mais apparemment, il semblerait que les syndicats n'étaient pas contre du processus budgétaire qui stipule les budgets est annuel. Étant donné que leur réclamation est faite en cours de l'année 2017, les gouvernements ne pouvaient capter et attendre l'exercice budgétaire suivant. Par ailleurs, le gouvernement Tshibala a été imprécis dans son adresse aux réclamations des enseignants, ce qui prouverait en suffisance la volonté du gouvernement de dribbler les enseignants. Car moi, j'estimerais que le gouvernement devrait dire clairement à ces derniers d'attendre l'exercice budgétaire 2017-2018 ou soit encore passer par une révision budgétaire de l'année 2017. Ça ne sera pas une mince affaire pour qu'on puisse encore revoir les budgets 2017. Mais j'encourage les enseignants de continuer avec les enseignements tout en ayant l'idée sur tête que le pays va mal. Et rien ne va changer tant que les élections sont encerclées. À mon avis, la synergie de ces syndicats devrait chercher les autres moyens de faire pression au gouvernement afin que leurs droits soient respectés plutôt que d'adopter les bases de la justice. Parce que dans ces pays, on sait très bien que la justice est remplacée par la politique. En résumé, je pense que la synergie des syndicats devrait continuer avec les mouvements de grève ou adopter les moyens de manifestation et de perdre l'État avec la justice congolaise. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas d'argent pour payer les enseignants. Alors, après la justice, que le gouvernement aura l'argent de les donner, n'est pas une manière d'enrichir les responsables de ces syndicats parce qu'ils finiront par être corrompus. Je pense qu'on doit revoir les choses. On ne doit pas tout simplement s'éterniser à revoir un peu la justice.
Merci beaucoup, Alain. Alors, Maître Likonza, vous êtes le dernier auditeur. Bienvenue dans cette émission. Maître Likonza, vous êtes avec nous? Voilà, la plus Maître Likonza en ligne. On revient plutôt à vous en lisant peut-être ce que Maître Likonza avait posté sur notre page Facebook. Il dit ceci, le réajustement budgétaire en faveur des enseignants ne produirait aucun effet positif au motif que dans la technique d'élaboration du budget, les parlementaires n'ont pas le pouvoir de créer ou d'augmenter les dépenses lors du débat autour de la question. C'est au gouvernement que revient le devoir de définir une ligne budgétaire favorable aux enseignants. Les conséquences sont là. La justice, pas trop de chance pour les enseignants. Voilà, Jean Bosco Bouna.
Vraiment, mais bon, je crois que la politique salariale, nous tous nous attendons cela. Et je crois que le gouvernement a violé les articles 36 de la Constitution, 58, 43 et 39. Ce sont ces articles qui sont violés par le gouvernement en matière de l'éducation, bien sûr. Et nous pensons que cette plainte va devoir interpeller notre justice à faire les choses autrement. Et je crois que les enseignants, ils sont aussi interpellés par rapport à leurs conditions de vie. Mais je dois dire à tous les auditeurs qui ont eu la préoccupation d'action. En fait, l'action en justice n'est qu'une action, mais les autres actions qui sont en train d'être planifiées seront mise en exergue pour continuer à revendiquer nos droits qui sont aujourd'hui lésés.
Voilà. Alors donc dans les prochains jours, je crois que vous allez mettre votre mal en patience avant d'attendre la réponse du procureur de la République. On vous a signifié quand est-ce que le résultat vous sera communiqué?
Bon,
la position du procureur.
C'est qu'il faut dire que la position du procureur est attendue, mais il y a un suivi qui est fait. Nous avons mis en place toute une équipe constituée des enseignants et des avocats qui vont devoir suivre les dossiers au 10e jour, parce que les avocats qui nous ont reçus nous ont rassurés que le procureur qui a donné l'ordre qu'on puisse réceptionner la plainte, qu'on puisse l'enregistrer, et que à ce niveau-là, eh bien, il y aura une démarche qui sera prise, mais nous attendons. L'équipe qui va assurer le suivi, c'est cette équipe-là qui va devoir nous donner la suite réservée à cette plainte. Mmh. Et nous pourrons communiquer aux enseignants qui attendent, parce que s'ils ont accepté d'observer la trêve, c'est parce qu'ils se sont dit, bon, regardons du côté de la justice, peut-être que nous aurons gain de cause. Parce qu'il ne faut pas oublier que des problèmes, il y en aura, et il y en a toujours dans les écoles. Et si aujourd'hui la justice peut aider les enseignants, il aiderait non seulement les enseignants, mais il aiderait également les parents qui sont exploités à outrance. Ça fait plus de 24 ans. Nous avons également dit que les églises ont cessé d'être modèles en matière de l'éducation parce que en fait, elles assistent comme l'État à la déliquescence du système d'enseignement. Mais regardez, il y a un auditeur qui a parlé des parents qui payent, c'était l'ingénieur Mangoyo, qui a parlé des parents qui payent beaucoup d'argent à l'école, mais mon cher ami, vous payez beaucoup d'argent à l'école, mais à la fin, l'enfant n'a pas de niveau. C'est une véritable
qualité,
escroquerie. Mais il n'y a pas de qualité. Même si vous payez $500, $600, c'est de l'argent qu'on jette parce qu'après, l'enfant n'a pas de niveau, mais l'enfant n'aura pas de travail.
C'est une bombe à retardement pour les pays. En tout cas, merci beaucoup, Jean Bosco Mpuna. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de Sinecat, syndicat des écoles catholiques, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois. Nous avons avons toujours un grand plaisir de vous accueillir dans ce genre d'échange. Merci. Merci aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Tiala, Nico Kalambay, Pierrot et la Mégie étaient tous à la réalisation. Et Martin Sebujangui a supervisé cette émission qui a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.